Ben là, on a eu un premier truc, ouais, par exemple les règles, etc. Mais c'était pas très profond. Après, on est en primaire, donc voilà, mais c'est très théorique.
Quand on a parlé du clito et tout ça, ils avaient dit. Genre, moi, je savais même pas ce que c'était là, que c'était le point d'orgasme et tout ça. Ils avaient dit, oui, c'est hyper sensible, c'est là où il y a X nerfs ou je sais pas quoi et tout. Et alors que, bah ouais, bah, c'est là où il y a le plaisir, quoi. Ils n'étaient pas au courant, quoi. Mais du coup, c'est drôle, quoi.
Enfin, moi, je me rappelle, oui, les filles et les garçons étaient séparés. Et eux, ils avaient vu leur truc avec leur corps et leur maman. Et nous, pareil, mais du coup, ben, pas réellement d'échange, quoi.
Mais nous, c'était impossible d'en parler, en fait.
Oui, c'est ça, tout le monde se marre. Dès qu'ils parlent d'une bite ou d'une chatte, ça part en fou rire général.
Il y en a plein qui prenaient pas ça au sérieux, etc., qui rigolaient, nanana, mais au final, ils se posaient des vraies questions par rapport à ça.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Me voilà rassurée, hein, il existe des phénomènes immuables au fil des générations. Le rire gêné sur ce sujet en est un. Barbatruc, vous le savez, c'est le rendez-vous des parents. Et cette semaine, nous abordons la sexualité. Un sujet, disons-le, qui peut faire peur aux parents, quel que soit l'âge des enfants ou des ados. En parler, lever les tabous, se poser des questions, c'est la meilleure manière de ne plus avoir peur. Alors, faut-il attendre les questions des enfants ou plutôt les devancer en la matière? Quels mots utiliser? Comment préserver sa propre intimité d'adulte face aux questionnements des enfants? On craint souvent d'en dire trop ou pas assez. Voici une émission garantie sans rire gêné, mais ça n'empêche pas d'être joyeux et joyeuse. Au programme également, les conseils de livres jeunesse de Denis Chessou. Ce sera l'atulument petit loup autour de 15h50. C'est parti. Comment parler de sexualité aux enfants et aux ados?
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Une émission en partenariat avec Bayard Jeunesse, préparée par Margot Page, réalisée par Anne-Cécile Perrin. Tiffany Battistel est à la technique et j'accueille deux invités qui n'ont même pas peur de s'attaquer à ce sujet. Charline Vermont et Jérémy Bulté. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Dorothée.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter. Charline Vermont, vous êtes formatrice en santé sexuelle, praticienne en sexothérapie et vous venez de publier un livre précieux qui s'intitule « Corps, amour, sexualité, les 100 questions que vos enfants vont vous poser » chez Albin Michel. Alors c'est un ouvrage à destination des parents et des enfants.
Absolument.
Entre 5 et 12 ans, à lire ensemble donc. Vous êtes aussi la créatrice d'un compte Instagram qui s'appelle Orgasme et moi, presque 600 000 abonnés. Et c'est à la suite d'une question de votre fils de 5 ans à l'époque. « Maman, c'est quoi ton métier ?» que vous avez eu l'idée d'écrire ce livre. Vraiment pas bête la question de votre fils en l'occurrence, Charline Vermont, parce que vous avez un parcours professionnel assez singulier. Que faisiez-vous avant ?
Alors, je ne dévoile pas plus que ça, j'étais dans une grande entreprise du CAC 40. Et en fin de compte, il y a un moment où le sens vient nous chercher.
Et vous avez tout plaqué pour créer un compte Instagram qui parle de sexualité.
Alors, moi j'ai la sensation que j'ai attendu ça depuis que j'avais 16 ans. 16 ans quand on est encore plein d'idéaux, moi j'avais envie de faire médecine. Voilà, je rêvais de sauver le monde, de réparer le monde, de changer le monde avec de l'éducation, exactement.
Alors justement, ce livre pour les enfants de 5 à 12 ans, il est à lire ensemble, hein, les parents et les enfants. C'est important de le préciser d'emblée.
Alors, c'est vraiment un livre que j'ai construit pour qu'il soit transgénérationnel. J'avais envie, en fait, d'un pont. J'avais envie d'un livre qui soit une rencontre. J'avais envie d'un lieu, en fait, qui rassemble les générations. C'est pour les parents, c'est pour les grands-parents, c'est pour les oncles et tantes, les parrains, les marraines, les potes, les éducatrices, les enseignants. Enfin, tout le village, en fait, qui est autour de nos enfants. En fait, pour leur dire, voilà, aujourd'hui, on va construire un monde nouveau. Et pour la première fois, depuis sans doute des millénaires, eh ben, on va parler de sexualité. On va enfin transmettre des choses qui sont essentielles. Et vous allez voir, tout va très bien se passer.
Voilà, pour la première fois depuis des millénaires, on n'a pas peur de l'emphase avec ce livre. Nous n'oublions pas les adolescents et les adolescentes dans Barbatruc. La série de Jérémy Bulté les concerne. C'est une salutaire série documentaire qui est en ligne depuis cette semaine sur la plateforme France TV Slash. Ça s'appelle Revenge. 5 épisodes d'une dizaine de minutes chacun, disponibles gratuitement sur un sujet important qui porte un nom affreux, le revenge porn. Jérémy Bulté, vous en êtes le co-réalisateur avec Sylvie Aguirre. Sans doute faut-il préciser d'abord ce qu'est le revenge porn.
Alors le revenge porn, c'est une pratique qui consiste à divulguer des photos, des contenus intimes, des photos et vidéos de manière non consentie. Et généralement, ça entraîne du harcèlement et du cyberharcèlement.
Alors vous avez mené l'enquête et rencontré des victimes auxquelles vous donnez la parole. Cette série s'adresse aux ados pour les alerter, mais sans jamais être paternaliste ou moralisatrice. Vous marchez sur un fil très fin.
Ouais, bah je pense que c'est des questions qu'on s'est forcément posées avec Sylvie. Comment on s'adresse sur un sujet aussi touchy que celui-là à des adolescents, et surtout comment on leur donne des pistes de réflexion et du recul. On sait que les adolescents, on a tous été ados, c'est un âge où on vit le truc à 100%. On est dans un roller coaster émotionnel. On a tendance à vivre les trucs au premier degré. Et du coup, ça nécessite d'apporter, en plus de la parole adolescente, un recul, une parole de spécialiste. Et l'écueil dans lequel on peut tomber lorsqu'on apporte une parole de spécialiste, c'est que la parole vienne surplomber celle de l'adolescent et qu'on devienne paternaliste ou moralisateur. Et donc, du coup, voilà, il faut réfléchir à faire en sorte que le spécialiste soit toujours à hauteur de l'adolescent et au service de l'adolescent.
On va entendre un extrait tout à l'heure. Revenge. Chaque emploi d'anglicisme sur l'antenne de France Inter suscite des dizaines de courriels d'auditeurs et d'auditrices furax. Alors, merci pour ce titre, Revenge. On va écouter un peu de musique francophone avant d'entrer dans le vif du sujet avec vous deux. Voici Étienne Dao sur France Inter. C'est Barbatruc jusqu'à 16h.
Jeune flamme orageuse, solitaire, héroïque, disperse dans l'océan ses poèmes organiques, l'azur fou de tes yeux m'a lancé un défi, et je lèche le sang de cruels ennemis. Nul besoin de me démasquer, car je ne ressemble à aucun de tes ex. Nul besoin de me contaminer, de m'intoxiquer par ton virus ex. Virus ex. Virus X, ton cœur bat la chamade, zigzag les yeux bandés, j'échappe à l'embuscade, le plus sûr des réflexes serait de vite fait tracer. Nul besoin de me démasquer, car je ne ressemble à aucun de tes ex. Besoin de me contaminer, de m'intoxiquer par ton virus ex. Virus ex, virus ex. Nul besoin de me contaminer, de m'intoxiquer par ton virus ex. Du haut de Saint-Vincent, les gargouilles nous surveillent. Virus Saint-Malo, rose pâle. Virus se déplie, se réveille. Nul besoin de me contaminer. Saint-Malo, rose pâle. Virus se déplie, se réveille. Virus X. Virus X.
Virus X, Étienne Dao sur France Inter. La programmation musicale de Barbatruc est signée Jean-Baptiste Audibert. Comment parler de sexualité aux enfants et aux ados? C'est la vaste question à laquelle on s'attaque cette semaine avec Charline Vermont qui publie un livre intitulé Corps, amour, sexualité, les 100 questions que vos enfants vont poser chez Albin Michel, et avec Jérémy Bulté qui a co-réalisé une série pour ados sur France TV/ Revenge, série documentaire sur la pratique dévastatrice du revenge porn. On va y revenir tout à l'heure. D'abord, le constat de départ, si vous le voulez bien, Charline Vermont. Est-ce que vous diriez qu'il y a en France une carence en matière d'éducation à la sexualité et que les parents sont livrés à eux-mêmes?
Ben, je pense clairement, nous, on a été nous-mêmes parents, globalement livrés à nous-mêmes. Ensuite, je vais parler en mon nom propre, mais dans ma famille, il y avait une grande pudeur, malgré des parents médecins. On n'abordait pas ce sujet-là, c'était extrêmement tabou, il y avait une omerta. À l'école, ça avait été abordé sous l'angle des risques, donc la traditionnelle approche par les risques. Attention, IST égale VIH égale sida. Alors moi j'étais ado dans la pleine épidémie VIH. Ou alors, sexe égale grossesse non désirée égale IVG égale aussi mort d'une certaine manière. Donc en gros, sexe égale mort, ne le faites pas. Donc voilà, moi c'est vraiment en fait le bagage que j'ai reçu, ce qu'on appelle sexe négatif, donc un stigma extrêmement négatif sur la sexualité. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup d'ados, d'adultes aujourd'hui qui sont entrés en fait dans le vif du sujet, dans leur propre sexualité, en ayant un bagage plutôt négatif.
Et votre ambition, c'est l'éducation à la sexualité positive.
Et voilà, et face à ce stigma négatif, moi je propose une approche beaucoup plus positive de la sexualité autour des valeurs de bienveillance, d'absence de jugement, également d'inclusivité, de consentement, de respect évidemment. Et voilà, effectivement, en tant que parent en fait, qui soit n'a rien reçu, soit a reçu une approche très négative, le jour où on devient parent, le jour où on se met à transmettre à nos enfants plein de choses, les recettes de cuisine familiale, l'histoire de notre famille, de la région, des valeurs familiales, etc. En fait, on se retrouve avec ce sujet et qu'est-ce qu'on en fait ? Moi, j'avais très peur, je pense comme beaucoup de parents, de ne pas savoir faire, parce que moi-même, en fait, on n'a pas fait avec moi. Et comment on invente du coup un chemin qu'on n'a pas connu ?
On va écouter des ados à présent. Notre reporter Juliette Pruteau a tendu son micro à des adolescentes et adolescents cette semaine plutôt qu'à des petits, c'est ce qu'on fait d'habitude. Et elle a eu tout le mal du monde à convaincre les garçons de répondre à ces questions qui pourtant n'étaient ni intrusives ni indiscrètes. Est-ce que vous êtes surpris, Jérémy Bulté, que les garçons, les adolescents garçons, refusent de répondre sur ce sujet ?
Ouais, je pense qu'il y a une pudeur, probablement une pudeur chez les garçons, mais là c'est pareil, je pense que c'est quelque chose à déconstruire. Je pense que c'est une éducation à avoir, et effectivement c'est probablement par tous les médias qui existent, par les comptes Instagram, parce que c'est des choses qu'ils consomment, et donc du coup qui va peut-être petit à petit déconstruire des idées qui lui ont été inculquées, qui sont des fausses idées autour de la masculinité fière. C'est des choses, je pense, à déconstruire.
Merci à celle au pluriel et à celui au singulier qui ont accepté de répondre. Ils ont entre 15 et 18 ans. Première question, où as-tu trouvé des informations sur la sexualité aujourd'hui et quand tu étais plus jeune ?
Personnellement, moi, c'était plus mes parents ou Internet, parce que à l'école, ça me gênait un peu, quoi.
Ouais, surtout quand t'es une femme au collège.
Genre dans la plupart des films, moi j'ai genre vu des classiques, des trucs où genre c'est des relations amoureuses genre hyper romantiques,
oui.
Et c'est des trucs
et la
genre
femme
où
est toujours d'accord. Ouais, t'as jamais un film où la femme elle va dire ah ouais non pas ce soir, j'ai pas envie. La femme elle est toujours tout le temps à l'envie. Du coup des fois limite ça te fait complexer parce que t'as pas toujours envie. Et...
Oui, chaque fois que j'ai un petit tracas, j'appelle le planning familial, ils répondent, ils sont trop gentils, vraiment, et ils te répondent à toutes tes questions. Et je suis à l'aise, tu racontes toute ta vie, tu dis tout ce que tu veux et ça va.
On fait des recherches sur Internet. Ouais, YouTube, les choses comme ça, parce que les réseaux, il y a très peu de gens spécialisés dans ce domaine-là. Donc,
les forums, ça fait peur. Je regardais des trucs et tout, je me posais des questions sur moi-même, je regardais sur des forums et après ça me disait un truc en mode genre dans 3 jours tu meurs. Et genre j'étais juste là en mode bon, écoute, c'est super.
Moi je sais qu'il y avait des trucs que j'avais appris sur un forum. En gros, l'application MyPill, tu sais, où genre, enfin je sais pas si vous avez déjà vu ce truc, où genre tu check à chaque fois que t'as pris de la pilule. Ouais. Genre histoire de pas l'oublier, t'avais des forums là-dessus. Et genre au départ, j'étais en mode trop bizarre, genre un forum de pilule. Mais en fait, les gens parlaient de tout.
Je sais que c'est pas forcément à l'aise pour parler avec genre ses parents, il y en a certains où c'est pas du tout facile et tout, tu vois. C'est vrai, je sais pas trop en soi, parce que tu vas en parler à tes potes, mais ça se trouve ils ont pas l'expérience qu'il faut pour en parler.
Films, des séries.
Personnellement, ma mère, elle a toujours été là pour répondre à mes questions et tout, et du coup, elle est toujours là si j'ai la moindre citation. Donc je trouve ça plutôt pratique de pouvoir se référer à son parent.
Moi, j'ai pas une très bonne relation avec mes parents,
donc c'était pas
on en parlait pas. Puis quand ils ont essayé,
je pense pas que les parents c'est leur rôle principal. Si genre on leur pose des questions, ils devraient être en mesure de répondre. Mais après, je pense pas que ça doit être ton référentiel, quoi, tu vois, parce que c'est notre relation.
Voilà, Internet, les parents, les films, le planning familial. On a là de bonnes pistes d'information. Toutes évidemment ne sont pas à mettre sur le même plan. Charline Vermont, je retiens cette parole d'adolescente. Ce n'est pas le rôle des parents.
C'est intéressant.
Qu'est-ce que vous lui répondez ?
C'est effectivement une question qu'on peut se poser, mais en même temps, les parents nous donnent un cadre dans lequel on va se construire quand on est jeune, pour nous permettre d'aller vers notre propre épanouissement, construire notre propre chemin en toute autonomie, etc. Et je pense en fait que les parents ont également un rôle à jouer dans notre construction affective, en tout cas, et dans le bagage qu'on va emmener avec soi, tout en se construisant, et ben, dans notre vie intime et dans notre relation aux autres. Ça veut pas dire, attention, moi, je fais vraiment une séparation entre parler de sa propre intimité, aborder sa propre intimité avec ses parents, ou entendre les parents parler de leur propre intimité, qui pour moi, c'est vraiment quelque chose, effectivement, à proscrire. C'est-à-dire.
Et ça, c'est très important.
Et ça, c'est hyper important.
On n'est pas obligé de raconter sa vie intime à ses enfants. Exactement. Et inversement.
Donc il y a ces deux intimités-là qui sont de part et d'autre. Et en fait, toute l'éducation à la sexualité, à la vie intime affective, ça va être de louvoyer entre ces deux intimités-là tout en les protégeant. Et de là où je la rejoins, et c'est peut-être ça qu'elle voulait dire simplement, c'était de dire, ce n'est pas, en fait, le rôle des parents d'entrer dans mon intimité. Mmh. Voilà.
Donc on peut tout à fait dire aux parents qui nous écoutent qu'ils ont le droit, si j'ose dire, de répondre, ça ne te regarde pas, aux questions de leurs enfants.
Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, si votre enfant vous pose une question sur votre propre intimité, en fait, vous allez lui donner un super exemple, en fait, en lui répondant ça. C'est-à-dire, vous allez dire, en fait, ta question, elle est hyper intéressante, mais tu sais quoi? Ça relève de ma propre vie intime, affective. Je ne souhaite pas te répondre.
Voilà. Ouais, l'intimité, ça marche dans les deux sens.
Exactement.
Alors, c'est parce que les ados s'informent beaucoup en ligne que votre série documentaire est importante, Jérémy Bulté. Revenge alerte sur les ravages du revenge porn. Je le disais, cette pratique qui consiste à diffuser des images intimes de quelqu'un sans son accord et qui donne lieu à des vagues de harcèlement. Est-ce que vous mesuriez l'ampleur de ce phénomène avant d'enquêter dessus?
Non. Pas du tout, pas du tout. Lorsqu'on a commencé l'enquête avec Sylvie, je connaissais le revenge porn, comme beaucoup de gens ont déjà entendu parler de ce terme-là. Je savais que c'était de la divulgation de photos non consenties.
Avec du chantage,
avec
souvent.
Du chantage. J'imaginais que c'était, et encore, c'est encore un peu le cas, l'ex-petit copain jaloux qui est frustré de s'être fait larguer, qui diffuse pour se venger. Mais en fait, ça, on s'est rendu compte que c'était quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus presque systémique. Et surtout, on a découvert, par exemple, l'existence des comptes fichiers. Les comptes fichas, c'est des comptes qui sont principalement créés pour afficher des jeunes filles sur
ce
des.
Ce sont des comptes qui servent à ça,
qui servent
sont créés
à ça.
Pour susciter du harcèlement.
Pour juste susciter du harcèlement.
En ligne et dans la vraie vie.
Parce qu'en plus des photos et des vidéos qui sont publiées, ils diffusent les informations personnelles de la jeune fille, son nom, son prénom, son adresse, son numéro de téléphone, pour inciter au harcèlement. C'est horrible.
Et on fait la connaissance dans votre série de justicières du web qui force l'admiration. Elle s'appelle Stop Ficha, justement. Elles viennent en aide aux victimes de revenge porn. Voici un extrait de cette série documentaire.
On peut aller jusqu'à 50 DM par jour. Mais ça, c'est vraiment en période de pic. On l'a notamment vu pendant le premier confinement. On était toute une équipe derrière le compte Instagram. Et moi, je disais, bon, bah, je m'occupe de telle personne, t'inquiète. Bah, y a telle personne qui a besoin d'aide, tu peux peut-être aller lui parler aussi. Et du coup, on essayait vraiment d'être là pour les victimes, de les appeler quand vraiment c'est la situation l'exigeait. Et voilà, on essayait un peu d'apporter du soutien. L'agresseur, je vais essayer de récolter des données sur lui, mais c'est surtout le bien-être de la victime. M'assurer qu'elle va bien, qu'elle peut guérir et qu'elle sache qu'elle n'est pas seule en fait et que ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a subi, t'en as plein d'autres qui ont vécu la même chose et qu'elle n'est pas seule. C'est pas à toi de porter la honte en fait, c'est à lui.
Elles sont épatantes, ces gamines Stop Ficha, des justicières du web, je le disais. Alors, il s'agit de mettre en lumière le phénomène du revenge porn, d'alerter les adolescentes, mais surtout pas de blâmer les victimes, Jérémy Bulté. Votre discours, c'est pas de dire, tu l'as bien cherché, il fallait pas envoyer ces photos à ton ex, par exemple.
Surtout pas, surtout pas envoyer des photos intimes. Dans un rapport de sexualisation, aujourd'hui, c'est quelque chose de sain. On peut envoyer un nude, on peut envoyer des photos intimes à son petit ami, ça c'est légal, on peut le faire. Ce qui est illégal par contre, c'est de le diffuser sans le consentement de la personne. Ça c'est illégal, c'est puni par la loi et il ne faut pas le faire.
En quoi cette série documentaire peut-elle venir en aide aux adolescentes d'aujourd'hui? Je parle au féminin parce qu'il faut le dire aussi, hein, ce sont surtout des filles qui sont victimes du revenge porn.
Ouais, ce sont surtout des filles, ce sont elles qui sont en première ligne. Ça reste une violence sexiste. Sur tous les comptes fichas qu'on a regardés pour faire l'enquête et pour arriver à faire ce film, on n'est jamais tombé sur un compte ficha qui diffusait des photos et des vidéos de garçons. C'était que des filles. Même si le revenge porn peut quand même toucher des garçons et ça peut toucher tous les âges. En première ligne, ce sont des jeunes filles et des jeunes filles très jeunes. Hein. On tombe sur des photos de jeunes filles de 12 ans, 13 ans, 15 ans.
Vous imaginez, Charline Vermont, ce que pensent les parents qui nous écoutent? Ils ont envie de conseiller à leur ado de ne surtout rien envoyer, même à leurs petits copains, même si elles ont confiance.
Effectivement, je pense que la difficulté, elle est, voilà, on va prendre un petit morceau de la raquette, mais en fait, c'est beaucoup plus large. C'est comment on fait quand on élève des filles ou des personnes sexisées dans un monde où il y a autant de violences masculines, notamment, en fait. Et c'est bien plus large que le seul revenge porn ou que les photos. C'est de manière générale. Et comment on parle à son enfant quand son enfant a envie de sortir en mini jupe dans une ville ou dans les transports, etc. J'explique effectivement volontiers aux parents pourquoi c'est important qu'elles éduquent leurs enfants, et notamment pour ne pas en faire des agresseurs ou des agresseuses. Et c'est pour ça que c'est important de le faire, s'il vous plaît, faites-le.
Ce livre, en effet, repose sur un code couleur en fonction de l'âge. Hein. C'est important de proposer des informations Exactement. Différentes en fonction des tranches d'âge. Par exemple, la masturbation, c'est à partir de 7 ans, les discussions. Voilà, vous conseillez, en tout cas, il n'y a rien de normatif, en fait, évidemment, mais vous conseillez aux parents d'évoquer le sujet de la masturbation à partir de 7 ans.
Exactement. Alors ensuite, voilà, il y a des codes couleurs pour les parents. Mmh. D'abord, vous avez des pages parents. Moi, je vous accompagne chapitre après chapitre pour ne pas vous laisser vous parachuter avec, voilà, bon, bah.
Et la question.
Sur tel sujet avec ton enfant.
Je l'ouvre au pif. La question, ça veut dire quoi éjaculer à partir de 10 ans?
Ouais, exactement. Voilà. On est dans la préadolescence à partir de 10 ans et c'est déjà des sujets que les enfants peuvent avoir. D'ailleurs, en fait, faire le lien avec le micro-trottoir qu'on entendait tout à l'heure, et des ricanements. Alors moi, ça ricane beaucoup quand j'interviens au collège et au lycée, ça intervient beaucoup jusqu'au moment où, avec les collégiens, et en particulier les propriétaires de pénis, eh ben on va parler d'éjaculation, et notamment d'éjaculation nocturne. Et en fait, je me rends compte à quel point, moi, c'est la question qui revient le plus fréquemment chez les jeunes collégiens, qui est-ce que ça va durer toute ma vie ? Voilà. Enfin, moi, à chaque fois que j'interviens, je me dis, mais c'est formidable, en fait. Heureusement que je suis là aujourd'hui. Parce que du coup, je vais pouvoir leur dire qu'ils vont pas mouiller leurs draps,
toute leur vie.
Jusqu'à la retraite. Et en fait, je suis toujours extrêmement surprise de me dire, mais en fait, il y a personne à la maison qui t'a expliqué ce qu'était la puberté. Alors, je dis, tu vois un corps d'enfant? Tu vois un corps d'adulte? Il y a quelques petites différences, tu vois. Et ben, ouais, notamment tous les signes sexuels secondaires, en fait, ils apparaissent grâce à des hormones dites sexuelles. Et en fait, à partir de l'âge de 10, 12 ans, et ben ton corps, il va produire de la testo en quantité astronomique pour faire passer ton corps d'un corps d'enfant à un corps d'adulte. Tout va bien, c'est tout à fait normal. Et tu sais quoi? Le jour où la puberté s'arrête, vers 17, 18 ans, et ben ça va se calmer tout seul. Et voilà, ça sera anecdotique sans doute plus tard. Et tout va bien. Et en fait, et ben alors là, généralement, ouais.
Gros soulagement.
Et alors après, on peut commencer à parler tranquillement. Il n'y a plus aucun ricanement. Tout d'un coup, ça y est. Mais en fait, c'est pas très compliqué de briser l'omerta. Venez répondre réellement aux questions qu'ont les enfants, qu'ont vos ados, et vous allez voir que derrière, en fait, ils sont tout oui, en fait. Ils sont là, on peut dire, oh, t'as pas d'autre chose à nous raconter.
Alors, que fait l'école, que fait le collège, que fait le lycée sur ce sujet? On y vient dans un instant. My Lucifer is lonely. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation. An open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them. Got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help, wow. Hills burn in California, my turn to ignore ya.
again, yeah. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely.
There's nothing left to say.
My God is gonna own me.
There's nothing left to say.
C'était Billie Eilish sur France Inter. L'éducation à la sexualité au menu de Barbatruc cette semaine. Comment parler de sexe, de plaisir, de consentement, d'intimité aux enfants et aux ados? Le planning familial, évidemment, a toute sa place sur ce sujet. Nous sommes en ligne à présent avec Sarah Durocher. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes coprésidente du planning familial. Alors, il est important de préciser ce que dit la loi en matière d'information et d'éducation à la sexualité. Le code de l'éducation prévoit, je cite, au moins 3 séances par an dans les écoles, les collèges et les lycées. Cette règle est-elle appliquée, Sarah Durocher?
Alors, elle est très loin d'être appliquée. On est très loin des réalités. Ça veut dire que, par exemple, on sait que la plupart des associations du planning familial interviennent souvent à partir de la quatrième, de la troisième. Alors que, comme vous venez de le dire, c'est bien prévu bien avant dans la loi. Et on le voit, nous, sur le terrain, en tout cas, qu'il y a de la sollicitation de la part des jeunes, de la part aussi de l'éducation nationale, par des professionnels qui sont parfois en difficulté. Et donc, en effet, c'est quelque chose qui est assez central et aujourd'hui qui n'est pas du tout mis en place.
Comment se déroulent les séances? Parce que vous travaillez en partenariat avec l'éducation nationale, donc dans les écoles primaires, au collège et au lycée. Comment ça se passe?
Souvent, on est un peu alerté quand il y a eu une situation compliquée ou difficile. Mais après, c'est l'occasion de se rencontrer, de vraiment mettre en place un partenariat, parfois de faire de la sensibilisation auprès de professeurs ou des employés de l'éducation nationale pour vraiment faire du travail en collaboration. Et le plus souvent, on intervient à deux personnes avec une classe. Alors des fois, on va séparer la classe en deux tout simplement sur la question de la mixité ou de la non-mixité ou quand les classes sont assez importantes. Et c'est surtout qu'on va utiliser des outils d'éducation populaire puisque Planning est une association féministe et d'éducation populaire. En deux mots, ça veut dire qu'on va partir de là où en sont les gens et de faire en sorte que ça soit assez ludique, assez accessible et que surtout la parole puisse se libérer. Ça veut dire qu'on sait très bien que parfois c'est compliqué de prendre la parole sur ces questions-là et c'est de mettre un environnement de confiance et permettant la prise de parole sans jugement dans un lieu assez safe et sécurisé pour toutes et tous. Et on va pouvoir libérer la parole.
Alors, quel conseil auriez-vous à donner aux parents qui nous écoutent pour aborder ces sujets-là à la maison, Sarah Durocher?
Peut-être déjà rassurer les parents que c'est pas simple d'en discuter, puisqu'on parle, on peut parler d'intimité, on peut parler des droits, et ça renvoie forcément à l'image qu'on a de la sexualité et de sa propre sexualité. Par contre, ce qu'on pense, ce qui est bien, c'est de peut-être dire qu'il y a des lieux. Il y a des professionnels, il y a des personnes autour de l'enfant ou de l'adolescent qui peuvent répondre à ces questions-là.
J'en profite pour donner le numéro vert du planning familial. C'est anonyme et gratuit sur la sexualité, la contraception et l'IVG. 0800 08 11 11. 0800 08 11 11. Le numéro sera bien sûr à la page de Barbatruc sur le site de France Inter. Les parents ne devraient-ils pas plus s'intéresser à ce qui intéresse leurs enfants adolescents, Sarah Durocher? Les chaînes YouTube, les comptes Instagram et j'en passe, ou encore la série Sex Education sur Netflix. Est-ce que c'est pas aussi aux parents de faire un pas vers leurs ados?
Bah peut-être, en effet, c'est un échange en tout cas qui est intéressant. Nous, ce qu'on voit aussi au niveau des interventions, alors nous, on aborde les questions de sexualité, pas seulement sur la côté prévention, attention, c'est dangereux. Enfin, on va plutôt être, comme je l'ai dit, de créer un espace. Et on va parler aussi de plaisir, on va parler de choses positives de la sexualité. Et nous, ce qu'on entend aussi, c'est qu'il y a énormément d'influenceurs et influenceuses qui vont avoir cette parole-là qui va s'adresser aux jeunes. Et il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes. Et en effet, c'est peut-être aussi d'aller un peu observer ce qui se passe, explorer. Et puis les jeunes et nos enfants peuvent nous apprendre aussi des choses sur les questions de sexualité, sur la question des droits et en termes d'information. C'est une génération qui est très informée. On critique énormément Internet, mais il y a aussi des belles choses qui se font. Et ça, c'est important de le dire. Et vous avez parlé de Sex Education sur Netflix qui passe actuellement. Les jeunes nous en parlent. On va parler de genre, on va parler de sexualité au pluriel dans cette série. C'est pas du tout pour en faire de la pub, mais en tout cas, c'est une source intéressante. Et j'invite aussi des parents à la regarder parce que voilà, c'est intéressant et peut-être en reparler avec leurs enfants après.
Merci beaucoup, Sarah Durocher, coprésidente du planning familial. À bientôt. Bonne journée à vous.
À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.
Génération très informée, nous disait cette représentante du planning familial. Jérémy Bulté, vous confirmez, vous qui avez beaucoup côtoyé les adolescents pour cette enquête, Revenge, ouais, génération ouais, très informée sur le sujet.
Ouais, complètement, c'est d'ailleurs intéressant de travailler avec eux parce que c'est une génération et une audience qui est très éveillée. On n'a pas besoin de définir tous les termes lorsqu'on travaille avec eux, on peut directement aller dans le cœur du sujet. Le revenge porn par exemple, pas besoin de le définir, eux ils le côtoient tous les jours.
Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de tabou.
Moi, je pense qu'il y a moins de tabous que la précédente. Ouais, je pense qu'en tout cas, ils sont assez ouverts sur beaucoup de sujets. Ils sont assez ouverts sur la sexualité entre eux. Peut-être que Charline a...
Charline Vermont, du compte Instagram Orgasme et moi. Je précise que vous avez travaillé avec Netflix, d'ailleurs, pour cette série Sex Education. Est-ce que vous confirmez les ados d'aujourd'hui sont beaucoup plus informés que les générations précédentes?
Alors, ils sont à la fois plus informés et plus exposés, en fait. Je pense qu'il y a une espèce de double... voilà, il y a quand même... ça vient de deux côtés positifs. Positif et négatif. À la fois, ils ont accès, effectivement, à travers les réseaux sociaux, notamment YouTube, Instagram, etc., à du contenu qui est parfois du contenu éducatif, de qualité. Mais également, il faut le dire, et moi, c'est pour ça que je dis souvent, il y a urgence, l'âge médian du premier porno en France ne cesse de baisser.
Aujourd'hui, c'est 12 ans.
Aujourd'hui, c'est 12 ans.
Donc, l'âge médian, précisons-le, c'est la moitié au-dessus, la moitié en dessous. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une moyenne, mais c'est quand même terrifiant comme âge.
Ça veut dire que 50% des enfants ont vu du porno avant l'âge de 12 ans. Pour moi, je le vois comme un danger. Pourquoi? Parce que ça a un objectif masturbatoire, hein, la pornographie, soyons clairs. Ça ne devrait être en aucun cas utilisé comme un support éducatif. Or, en l'absence d'autres intervenants, autres contenus éducatifs, eh bien, il y a beaucoup de gamins qui utilisent la pornographie comme support éducatif. Et moi, l'imprégnation au porno, eh bien, je la vois dans mes interventions en établissement scolaire dès le collège.
Et d'ailleurs, notre reporter Juliette Proutot leur a posé la question. À quel âge as-tu été confrontée pour la première fois à des images pornographiques?
Primaire, ça te tombait dessus à une pub. Ouais. Donc, c'est même pas moi qui ai voulu, quoi. Là.
Ah si, moi, c'est les garçons. En primaire, qui m'ont dit, va voir ça sur Internet. Moi, je me dis, ok, je tape et je m'attendais pas à ça, quoi.
Bah, moi, c'était sur les sites de streaming et souvent, il y a des pubs un peu fichaudes dans ta région, tout ça. Il y avait des pubs un peu comme ça.
Moi, une anecdote, elle est drôle. Je devais avoir genre 5-6 ans et on avait une télé avec mon frère dans notre. On avait un couloir commun, on avait une télé. Et je suis sortie dans le couloir et j'ai vu un film porno où il y avait une femme et deux hommes, ils étaient debout dans un couloir. Et j'ai capté que c'était un truc que je devais pas voir et je disais à mon frère, mais change, c'est trop bizarre. Et c'était mon grand frère. Et lui était en mode, non, c'est trop bien et tout. Il avait 10 ans, un truc comme ça, donc il était super hype lui. Et je me suis cachée derrière un mur et j'étais en mode, change. Voilà, et j'étais super gênée.
Il y a même, par exemple, quand il y a des rapports lesbiens dans les pornos, c'est très fétichisé. C'est pas...
Ouais, c'est surtout pour les hommes, encore une fois.
Ouais, bah, c'est pas pour les lesbiennes justement.
Ça, ça sera souvent avec des sextoys alors qu'elles font l'amour autrement, lesbiennes.
Ça donne une mauvaise image du sexe en fait.
Et surtout pour la femme.
Souvent il y en a, ils pensent que c'est ça et quand ils commencent, eh ben, ils se réfèrent à ça alors que pas du tout.
Ouais. Et quelquefois les hommes surtout ils se réfèrent à ça et ils essaient de faire prendre du plaisir à la femme avec ça alors que c'est pas la bonne manière.
Voilà, propos recueillis par Juliette Proutot. Charline Vermont, dans votre livre, vous dites que c'est de la science-fiction, le porno.
Non, c'est plus complexe que ça, ma réponse. Je crois que c'est un peu de la science-fiction. Ouais. En fait, c'est de leur faire comprendre que c'est du cinéma. Et effectivement,
c'est
je leur fais comprendre...
de la science-fiction.
C'est presque. Voilà. C'est presque de la science-fiction. Mais effectivement, on aborde cette question pour donc les plus de 10 ans de, voilà, j'ai vu une vidéo sexuelle, est-ce qu'on peut en parler? J'ai envie, effectivement, que les enfants se sentent apaisés, enfin dans un espace suffisamment safe pour pouvoir en parler à leurs parents, à l'adulte de confiance, pour pouvoir poser les choses et mettre de la distance par rapport à cette ces images qui peuvent refléter effectivement d'une certaine violence, et surtout qu'ils n'utilisent pas ces images comme support éducatif.
Jérémy Bulté, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu aussi dans votre enquête sur le revenge porn, l'exposition des enfants assez jeunes aux images pornographiques.
Oui, c'est quelque chose qui revient, et je pense que c'est aussi pour ça que de plus en plus de jeunes, lorsqu'ils ont des rapports sexuels à l'adolescence, ils ont le téléphone pas très loin, ils vont avoir le réflexe de se filmer, de faire des vidéos intimes, et après de les diffuser, de les consommer comme un porno traditionnel. Sauf que c'est pas un porno traditionnel, c'est de la vidéo et de la photo intime. Il n'y a pas des pornstars derrière, il n'y a pas une industrie. Là où c'est triste aussi avec le porno, et on s'en est rendu compte avec l'enquête, c'est que beaucoup de photos et vidéos de revenge porn terminent sur les grands sites de pornographie. Et du coup, ça fait le beurre de ces grandes plateformes de porno. Et ça, c'est un gros problème.
Allez, nous reprenons ces échanges dans un instant. Voici d'abord Joy Crooks sur France Inter. In the summer of 16, was it love or nicotine that made us mellow on the 31st? It was penny paradise, just a pretty little lie, and it hit me when I saw you. Hand in hand, cold harbor line, never take it easy on the PDA. I don't miss you, least not that way, but someone better.
Barba truc.
parler du corps, de sexualité, de consentement, de plaisir avec les enfants et les ados. Des conversations parfois impressionnantes, oui, disons-le, mais saines. Barbatruc donne des pistes aux parents cette semaine avec Jérémy Bulté et Charline Vermont. Jérémy Bulté, auteur-réalisateur. Charline Vermont, sexothérapeute qui pilote le compte Instagram Orgasme et moi, autrice d'un guide pour les parents d'enfants entre 5 et 12 ans. Tenez, je vous lis un courrier de lecteur vu dans le magazine Phosphore. Mon père me demande si j'ai déjà couché avec ma copine, écrit cet adolescent. Est-ce que je dois lui dire ou pas? Le psychologue répond ceci. Tes parents sont responsables de toi. Ils doivent veiller à ta santé et à ta sécurité. Mais ça ne signifie pas que tu doives tout leur dire, surtout quand il s'agit de ton intimité. La gêne est un bon indicateur de ce que tu as envie de partager avec eux et de ce que tu veux garder pour toi. Tu n'es donc pas obligé de répondre à ton père, mais tu peux lui demander pourquoi il tient à savoir et le rassurer s'il a des inquiétudes. Peut-être qu'il veut être sûr que tu vas à ton rythme. Voilà, répondre à une question par une question, normalement c'est un truc de parent ça, Charline Vermont.
Très très beau la pirouette du psychologue, vraiment je salue. Cela étant, il a raison. Éventuellement, faites comprendre que vous êtes là, vous êtes présent, surtout si t'as des questions, si t'as le moindre souci, je suis là, je suis à ton écoute, je ne te jugerai pas. Par contre, s'il vous plaît, laissez-leur vivre leur intimité.
Être là, mais à distance.
Exactement.
C'est à la rubrique perso du nouveau numéro de Phosphore, magazine pour les 14-19 ans, avec à la une un dossier sur Wikipédia. On va redonner la parole à des ados à présent, au micro de notre reporter Juliette Proutot, avec cette question. Et si c'était à refaire, de quoi aurais-tu voulu qu'on parle en cours d'éducation sexuelle, les fameux? Voici les réponses d'ados au micro de Juliette Proutot.
Moi, je trouve que le consentement, c'est pas vraiment dans les cours. Alors, on entend parler en dehors des cours, ça c'est bien. Mais pas beaucoup dans les cours à proprement dit. En secondaire, je pense pas avoir entendu parler de consentement dans les cours. Et...
Jamais.
Un peu plus inclusif.
Ouais. Diversifier les sujets et pas que faut faire des bébés. Quoi.
Non, mon prof, il nous a parlé plus des parties génitales des hommes que des femmes. Je connais toute la partie génitale des hommes, mais pas la mienne. Je sais pas ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et surtout, j'ai appris il y a peu longtemps qu'à notre époque, enfin nous, c'était il y a 5-6 ans, dans les manuels, c'était faussé en plus. L'appareil génital des femmes, n'importe quoi.
Déjà avoir des vrais schémas abordé. De ce qui est vraiment une chatte, pas uniquement. Déjà qu'on arrête d'appeler ça que le vagin, puisque voilà, qu'on mette des vrais mots dessus, des vrais schémas qui expliquent entièrement ce qui se passe, les maladies, genre vraiment les expliquer.
J'avais aucune idée qu'il y avait d'autres maladies que le sida. Mais c'est moi, que le sida, oui. Et le reste, on s'en fout.
Des différentes manières d'aborder sa sexualité, la mettre moins genrée, en fait, juste en parler tôt, et plus généralement.
Ils sont assez épatants, non, ces adolescents et adolescentes, Jérémy Bulté?
Ouais, ils sont incroyables, ils ont une parole complètement libre, ils arrivent à mettre le doigt sur ce qui leur gêne, toute la parole sur le consentement, je trouve ça super intéressant. Pour revenir sur Revenge...
Donc Revenge, c'est votre série documentaire sur cette pratique qu'on appelle le revenge porn.
Tout à fait, et c'est la question du consentement est partout dans cette notion de revenge porn, de consentement et de droit à l'image. Aujourd'hui, on a un média, tout le monde a un téléphone dans la main, tout le monde peut se filmer, mais on n'a pas le droit d'utiliser les photos du corps de quelqu'un d'autre et de les diffuser, ça nous appartient pas, et donc ça revient sur les questions du consentement et c'est important et c'est très bien qu'ils en aient conscience et qu'ils se posent ces questions-là.
D'ailleurs, on ne l'a pas encore dit, mais c'est une série pour les adolescents, Jérémy Bulté, mais est-ce que vous conseillez aussi aux parents de la regarder?
Oui, bien sûr. On a adopté le ton pour parler aux adolescents pour qu'ils puissent se retrouver, surtout les jeunes filles qui se retrouvent face à ces thématiques-là.
Mmh. Et qu'elles ne se sentent pas seules.
Voilà, qu'elles sont un peu perdues. Il ne faut pas qu'elles se sentent seules et qu'elles puissent sentir que ça avance, qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour les aider. Mais les parents, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui savent pas et qui sont complètement déconnectés de ce qui se passe. Des parents qui vont pas sur TikTok, qui vont pas sur Snapchat, qui vont pas dans tous les espaces numériques que consomment leurs enfants. Et donc je pense que ça peut leur ouvrir les yeux et ça peut leur permettre d'ouvrir le dialogue et de les accompagner.
Ils auront peut-être besoin d'un lexique, les parents, mais tant mieux. Après tout, s'il faut demander à son ado de nous expliquer.
Ça crée de la communication. Et je continue à dire que c'est comme ça que on va se sortir de toutes ces questions-là, c'est par la communication. Les parents ont aussi besoin d'être éduqués aux nouveaux médias de leurs enfants.
Jérémy Bulté, je conseille aussi vivement votre précédente série qui s'appelait Fantôme. Elle est toujours en ligne sur France TV/. C'est une enquête sur le ghosting. Encore un très joli mot en anglais. Le ghosting, ça consiste à disparaître du jour au lendemain, ne plus répondre aux SMS, aux appels, aux messages sur les réseaux sociaux de quelqu'un, que ce soit une relation amoureuse ou amicale. Le revenge porn, finalement, c'est bien plus grave que le ghosting, évidemment, mais le point commun, c'est que ce sont des pratiques numériques. Sauf que tout cela existait avant les smartphones, bien sûr, avant les réseaux sociaux. On pouvait disparaître et on pouvait aussi se venger de quelqu'un en diffusant son intimité. C'est un changement d'échelle, un changement d'ampleur de ces phénomènes.
Tout à fait. À partir du moment où Internet est arrivé, à partir du moment où les réseaux sociaux sont arrivés et qu'on a commencé à communiquer dans tous les sens, ça a créé une espèce de chaos. Initialement, Internet, c'était censé nous relier et créer un lieu de partage et de bienveillance. Finalement, on se rend compte de plus en plus que c'est en train de nous diviser, de nous polariser, et que ça crée de la confusion. Et au milieu de tout ça, il y a des comportements un peu négatifs, des comportements néfastes de l'Internet, et le ghosting en fait partie. C'est-à-dire qu'on a du mal maintenant à rompre. On a décidé d'arrêter la rupture. Dans la relation amoureuse, c'est quand même dur. En termes de non-communication.
Disparaître plutôt qu'expliquer.
Disparaître plutôt qu'expliquer. Et le revenge porn, là, on atteint en plus un degré supplémentaire dans la violence.
Charline Vermont, je vous trouve très optimiste dans votre livre d'éducation à la sexualité. Voici ce que vous écrivez à la toute fin. Nous sommes la première génération de parents qui va parler de corps, d'amour et de sexualité avec nos enfants. Nous sommes des pionniers et des pionnières. Nous transformons l'omerta en communication, le tabou en conversations saines et intelligentes et le jugement en bienveillance. Êtes-vous sûr que c'est une affaire de génération ? Et pas plutôt de milieu, Charline Vermont.
C'est une très bonne question. Effectivement, on a envie, enfin moi j'ai eu envie de reproduire ou de permettre à chacun, chacune de reproduire dans sa maison, dans son foyer, ce que ça a apporté. Enfin, ça apporte énormément de communication. Nous, en tout cas, ça nous a beaucoup rapprochés de savoir qu'il n'y avait pas de tabou, pas de jugement à avoir sur ces sujets-là. Alors, est-ce que c'est une question de milieu ? L'éducation en soi, déjà, est un privilège. Je pense qu'on a le droit de le dire. Et oui, oui, c'est une question de milieu. Ensuite, un livre, ça coûte 15,90 €.
Au-delà du prix, c'est pas seulement une question de milieu socio-économique, c'est aussi une question de d'être à l'aise ou pas sur ces sujets-là. Comment ? Qu'est-ce que vous dites ? Vous parlez à tout le monde. Et comment est-ce qu'on en parle ? Comment est-ce qu'on aborde, par exemple, pour la première fois le sujet avec ses enfants ?
Eh bien moi, en cours, je fais jouer les enfants. C'est-à-dire, en fait, je reproduis avec un complice des scénettes l'un ou l'autre, on essaie de se draguer mutuellement et on essaie d'arracher qui a un bisou, qui a un geste affectif avec à l'autre. Et alors, en fonction de ce qu'on a montré sur scène, s'il y a consentement, les enfants doivent se lever. Voilà. Et je leur dis des choses, des assertivités, il a éjaculé, donc il a eu un orgasme. Vrai ou faux ? Vrai, faux. Et en fait, il faut transformer les choses en jeu. Et voilà. Donc je pense qu'il y a un moyen qui est très simple et peut-être de démocratiser. C'est peut-être moins abrupt qu'un livre ou qu'un cours magistral. C'est le jeu. Voilà. Essayez, en tout cas, moi, c'est le conseil que je donnerais aux enfants, aux parents, pardon. C'est vraiment, allons-y par le jeu.
Vous parlez de clitoris et de pénis, oui. Charline Vermont, vous êtes de ceux et celles qui militent pour qu'on emploie les vrais mots quand on parle aux enfants.
S'il vous plaît, vous parlez bien de nez et d'oreille, donc vous parlez de vulve, de clitoris et de pénis, c'est un nom.
C'est
quoi.
Plus facile aussi les petits mots, les petits noms qu'on donne aux organes génitaux par exemple.
Est-ce que c'est plus facile ou est-ce que c'est des habitudes qu'on a du mal à perdre ?
On peut rassurer les parents qui nous écoutent et qui ne se sentent pas encore capables d'en parler avec leurs enfants, c'est pas si grave ?
En fait, je les comprends. Voilà. Je suis pleine d'empathie. Moi, vraiment, mon élan premier, c'est de l'envie de prendre ses parents dans les bras, de dire, vous savez, c'est ok. Je suis avec vous. J'ai vécu la même chose. Il faut pas se faire violence. Faut s'écouter soi-même. La première bienveillance, elle est vis-à-vis de soi-même. Et je suis sûre que vous ferez un super job. Voilà.
La bienveillance, ça commence avec soi-même. Allez, il est temps de se raconter des histoires. Voici Denis Chessou et ses conseils de livres pour enfants. Au programme cette semaine, deux sujets importants, la chasse au cauchemar et la culpabilité. Bonjour Denis.
Dorothée Barbaz sur France Inter. Là, tu l'es, mon petit loup.
Bonjour Dorothée, bonjour à tous. On débute par « Ce n'est pas grave, mon crapaud » de Song Yung Lee aux éditions des éléphants. C'est pour les 4-7 ans. Alors, une jolie réussite autour d'un thème de la culpabilité, chez les batraciens.
Un crapaud blanc et crapaud rouge sont très bons amis, mais très différents, vraiment très.
crapaud blanc est très sociable. Crapaud rouge, au contraire, aime être tranquille et est exclusif. Il n'apprécie pas que crapaud blanc lui parle sans arrêt de ses amis.
Il rumine, mais c'est moi le meilleur ami de crapaud blanc.
Qui est ravi, car lapin blanc, mon ami derrière la forêt, va venir chez nous.
Quoi ? Il va dormir ici, dans notre maison ?
Colère, dispute pour un oui, pour un non, jalousie.
Puisque c'est comme ça, je ne veux plus jouer avec toi, je m'en vais, dit crapaud blanc.
Terrifié par l'idée de l'abandon, explosion. Crapaud rouge lance une grosse pierre qui était à ses pieds.
Va-t'en !
Tache de sang, ami blessé, ambulance. Ne sachant que faire, crapaud rouge se cacha au milieu de l'étang. Il est désemparé.
Mais pourquoi ça a mal tourné ? J'étais en colère, c'est tout. J'ai trop peur.
Ah, vous savez, on est dans ces moments où de jeunes enfants sont dépassés, débordés par leurs gestes qu'ils ne comprennent pas. Mais il découvrit lapin blanc qui lui souriait, une lettre à la main.
Je suis le correspondant de crapaud blanc. Il m'a invité et je suis venu.
Alors que répondre ?
Crapaud blanc m'a beaucoup parlé de toi dans ses lettres, de tes magnifiques poèmes, de tes dessins dignes de grands artistes, de ton merveilleux jus de framboise.
Et que lui dire, les yeux pleins de larmes, il ne pouvait le regarder en face.
Mais ce n'est pas grave, mon crapaud. Tu ne voulais pas ce qui est arrivé, n'est-ce pas ? Allez, viens, je vais te faire un câlin.
Et puis il écrivit à crapaud blanc.
Youpi ! Il rentre à la maison avec les autres amis animaux.
Retour, câlin, fête au bord de l'étang. Alors, rares sont les albums pour les petits qui racontent avec tant de tact cet amour exclusif qui va jusqu'à franchir la ligne rouge. Celle qui fait commettre l'irréparable et la terrible culpabilité qui s'ensuit. Alors, vous avez un excellent rapport, texte-image, avec des phrases qui ne sont jamais redessinées. Un très bon travail de couleur avec des évocations alors qui peuvent faire penser à Mélanie Rutten, à Kitty Crosser ou bien à Anne Brouillard. Crapaud rouge pourra-t-il être pardonné ?
Oui.
Et se pardonner à lui-même. On a tous un petit crapaud rouge au fond de nous avec des émotions qui nous ont dépassés. Ce n'est pas grave, mon crapaud. Son Yongli aux éditions des éléphants. C'est pour les 4-7 ans. Le cauchemar du Thylacine, signé David Ecali et Claudia Palmarucci aux éditions La Partie pour les 6-9 ans. Un bon album pour vaincre les mauvais rêves et qui nous plonge dans la faune australienne. Dans la forêt sans nom, entre le marais des désirs et la cascade du temps perdu, vous avez un lieu appelé le sous-bois des rêves.
Où travaille un étrange docteur, le docteur Wallaby, un spécialiste en mauvais rêves. Il a beaucoup de travail car chacun a un mauvais rêve qui se répète.
L'opossum est persécuté par un cri sauvage.
L'émeu a peur d'une ombre noire qui le poursuit toute la nuit.
Le wamba imagine des choses qui grouillent.
Un bruissement bizarre embête le koala.
Alors, dans le sous-bois des rêves, le docteur Wallaby part chasser les cauchemars avec Sirius, son fidèle dingo qui aime croquer les mauvais rêves. Et on ouvre le petit manuel de chasse aux mauvais rêves.
Cage, filet, piège, trou et la fameuse flûte lance-flèche du docteur et de son assistant se charge du reste.
À chaque cauchemar, sa méthode. On les élimine et les patients vont mieux.
Mais dites-moi, Denis, le Thylacine qui donne son nom à l'ouvrage, qu'est-ce que c'est ?
Ah oui, ça on ne sait pas forcément. C'est le tigre de Tasmanie qui fut trop bien chassé. Et son rêve à lui, c'est ?
Tout ce que je vois est une chose vide et sourde, profonde, immobile.
Wallaby est perplexe. Il cherche longtemps dans son grand livre des cauchemars et puis il comprend.
C'est le néant. Ni rêve, ni cauchemar. En fait, tu es éteint. Ton spécimen a disparu et tu es un fantôme.
Mais que dois-je faire ?
Eh, viens.
Il l'emmène sur l'île des ombres où habitent les âmes des animaux qui n'existent plus.
Reviendront-ils un jour ? Allez savoir.
Alors, sur les pages de garde, vous avez une soixantaine d'espèces menacées. C'est à la fois un récit qui dit qu'en nommant les choses, en racontant les cauchemars en l'occurrence, ils peuvent disparaître. Et il dit aussi la destruction des espèces en cours en prenant la voix des songes du Thylacine. Bref, de la vraie création, le cauchemar du Thylacine, David Ecali et Claudia Palmarucci aux éditions La Partie. C'est pour les 6-9 ans. Merci à Lucie Cosmala, Eric Oswald, Denis Chesson. Nous vous souhaitons de belles lectures.
Merci Denis, et on clique à la rubrique « L'as-tu lu mon petit loup ?» sur le site de France Inter pour retrouver les références des livres. Barbatruc touche à sa fin. J'ai une dernière question à poser à mes invités, question rituelle dans cette émission. J'aimerais connaître l'odeur de votre enfance. Jérémy Bulté.
Alors moi je dirais que ça doit être l'odeur de la lavande. Parce que dans le jardin de mes parents, il y a une grosse lavande et à chaque fois qu'on passe dans le jardin, ça balance de la lavande partout. Et ma mère avait l'habitude de couper des morceaux de lavande, mettre dans des sachets et en mettre partout dans tous les placards. À chaque fois qu'on ouvrait un placard, ça sentait la lavande. Donc je pense que C'est ça, l'odeur.
Charline Vermont, quelle est l'odeur de votre enfance?
Ah, le bois. Le bois du chalet, enfin, c'est le chalet de mon enfance dans les Hautes-Alpes. Voilà, les Hautes-Alpes, les écrins, et voilà, c'est mon odeur.
La lavande et le bois, deux odeurs qui rejoignent la recette complexe du parfum de l'enfance. On l'élabore au fil des semaines dans cette émission. Merci mille fois à tous les deux. Charline Vermont, votre livre à mettre entre les mains de tous les parents chez Albin Michel. Corps, amour, sexualité. Les 100 questions que vos enfants vont vous poser. C'est pour les 5-12 ans. Jérémy Bulté, votre série documentaire Revenge est en ligne gratuitement sur la plateforme France TV/. 5 épisodes de 12 minutes chacun que l'on recommande aux ados et aussi à leurs parents. Bonne journée à tous les deux, merci beaucoup.
Merci.
Et à bientôt sur Inter.